France Culture.
Les nuits de France Culture.
En 2009, pour une semaine de 4 jours, Alexandre Hérault embarquait les auditeurs de Sur les Docks au 36 Quai des Orfèvres. Dans le premier des épisodes de cette série, on s'intéressait plus particulièrement à l'histoire et à la configuration du bâtiment de cette adresse mythique de la police judiciaire. Avec notamment pour guide des policiers du 36, à la retraite ou en activité, cette émission nous invitait à monter les 148 marches d'un escalier aussi célèbre que ceux du Festival de Cannes et du Casino de Paris, mais que pour autant, certains n'étaient pas pressés de gravir. En 2009, la brigade criminelle n'avait pas encore quitté le quai des Orfèvres, mais déjà, à la perspective de la voir partir de l'île de la Cité, pointait chez certains une nostalgie compréhensible et même la crainte que la PJ perde son âme en quittant le sanctuaire qu'était le 36. Une nostalgie, une crainte que l'on comprendra mieux à l'écoute de ce documentaire où résonnaient les voix de Jouvet et de Gabin au fil d'une visite sur laquelle planait l'ombre du commissaire Maigret, mais surtout celle de grands flics, de grandes affaires et de grands criminels. Une semaine au 36, premier des 4 épisodes, les 148 marches, diffusé le 30 mars 2009 sur France Culture.
Bonjour, vous vouliez me voir ?
Oui, nous avons juste quelques renseignements à vous demander concernant une affaire sur laquelle nous travaillons en ce moment. Ça prendra pas longtemps.
Vous m'emmenez où ?
Quai des Orfèvres dans nos bureaux.
Quai des Orfèvres ?
Ce sera pas long.
Mais vous avez un mandat d'arrêt ?
On n'est pas dans un téléfilm américain.
Je vais chercher mon blouson.
Une semaine au 36. Premier jour, les 148 marches. Yvon Croisier, Alexandre Hérault.
Il y a deux quais très connus à Paris, c'est le quai d'Orsay et le quai des Orfèvres. Et en particulier au quai des Orfèvres, le 36 est une adresse mythique. Il y a d'autres portes, bien sûr, mais on dit aujourd'hui le 36. Il faut savoir qu'autrefois, on disait plutôt la tour pointue, la maison pointue. Et c'est vraiment le roman et le cinéma qui ont fait qu'aujourd'hui, plus personne ne comprendrait ces expressions et qu'on emploie beaucoup plus volontiers l'expression le 36. Je vais au 36, nous voici au 36.
Que dans chaque foyer, on s'apprête à fêter la nuit merveilleuse, chère à notre enfance, dans un bureau gris et hostile du quai des Orfèvres, un homme lutte désespérément pour sauver sa tête.
Mais puisque j'y étais pas, foutez-moi la paix là-bas, j'en ai ma claque, hein !
C'est une lutte serrée, implacable.
T'occupe pas. Ici, on pose des questions. On n'y répond pas.
Un crime a été commis et l'appareil répressif de la société est en marche.
Michel Malherbe, quand on a passé comme ça tant d'années ici au 36 Quai des Orfèvres, qu'on revient alors qu'on est jeune retraité devant la porte, quelle impression ?
J'ai un peu l'impression de revenir 30 ans en arrière. Pour moi, c'était quelque chose d'être affecté au 36 Quai des Orfèvres. Rien que le nom, déjà, c'était prestigieux, puisque vous dites 36 Quai des Orfèvres, ça évoque automatiquement la police judiciaire. C'est un nom qui a été tellement mis en valeur par les romanciers, la presse. Il y a un peu l'ombre de Maigret qui plane ici. Maigret, Georges Simenon, s'est promené longtemps dans ces locaux puisqu'il a tiré son personnage du commissaire Maigret, des commissaires Guillaume qui était à la crime et Massu. Et c'est des gens qui ont existé, il s'est vraiment imprégné, il a passé des heures et des heures, pour pas dire des jours, au quai des Orfèvres, il était admis partout, c'était presque l'ami de la famille. Donc on a un peu l'impression de voir son ombre là-dedans, et puis l'ombre surtout de grands criminels de l'histoire qui ont transité ici, ils ont presque tous transité ici, comme le docteur Petiot, des gens comme ça, des gens horribles, mais qui sont rentrés à la postérité par la mauvaise porte. Et donc ici, c'est une maison, c'est ma maison, c'est un petit peu ma maison.
Bonsoir, commissaire. Alors, il paraît que ça chauffe au 36.
C'est des histoires de flics. C'est pas ton problème. C'est pour ça que tu m'as fait venir ?
Non, c'est pour ma copine. Elle s'est fait ramasser par les bleus. Ce que vous convoquez tout de suite, vous l'historien, vous le romancier, Bruno Fulini, vous le haut fonctionnaire, c'est le caractère mythique, voire mythologique du lieu.
Forcément, parce que sur le fond, quand on le visite, on n'est pas forcément émerveillé par les lieux, on est même plutôt fasciné par le délabrement, la tristesse de ces escaliers, couloirs, ces murs un petit peu tristouilles. C'est une adresse, c'est l'adresse qu'on retrouve aussi bien dans les documents qu'examine l'historien que dans un certain nombre d'œuvres, romans, films. Et du coup, effectivement, c'est beaucoup plus qu'une simple adresse. C'est vraiment un symbole.
On pénètre sous le porche, un porche emprunté par... D'ailleurs, j'imagine, messieurs, vous qui êtes directement associés au lieu, être là et en avoir la garde de ce 36... Si, vous pouvez le dire, ça fait quel effet ? Parce que tout le monde rêve de pénétrer le lieu quand on fait cette carrière. Vous, vous le gardez.
C'est vrai que c'est assez impressionnant au début. C'est clair que par rapport à toute l'histoire du bâtiment. Mais bon, on s'y fait. Après, bon, c'est...
Il y a une petite fierté, parce que c'est pas...
Oui, tout à fait, oui. Par rapport aux gens du métier, c'est clair qu'il y a une petite fierté. Bon, après... C'est pas comme si qu'on était à la criminelle ou des trucs comme ça, des services comme ça. On n'est pas, nous, on est juste là pour garder la porte. Mais bon, il y a quand même un petit prestige, c'est sûr. Dans la vie privée, de dire qu'on travaille au 36, c'est vrai que c'est...
Et sans indiscrétion, aujourd'hui, vous avez vu passer quel genre de personnage ?
Un peu de tout, hein, vous savez. De tout, des criminels. Il y en a qui passent pour des petits délits, simples défauts de permis de conduire, jusqu'au meurtre, viol, un peu de tout, quoi. Ouais.
Oui, un peu de tout, même nous.
De tout, absolument, de tout, de drôles de gens. Des... Puis, d'abord, une intense activité. Il y a en permanence du monde qui passe à toutes les heures. Nous entrons en plus dans des bâtiments où se mêlent inextricablement des locaux de police et des locaux de justice. Ce qui fait qu'on voit passer des professions un petit peu concurrentes ou antagonistes. Hein, c'est la même entrée pour des gens qui n'ont pas forcément les mêmes buts à l'intérieur de la maison, sans même parler des criminels, évidemment, qui peuvent y être amenés.
Dis donc, Louis, tu crois pas que tu pousses un peu ? Où on va ?
Ben, je te le demande.
Ah ben, si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter des sandwichs et de la bière ?
En fait, la plupart du temps, ils sont convoqués par une autre porte, ces figures-là, oui. Célèbres, par le 34.
Alors, ils arrivent, là, c'est la souricière, le 34. Normalement, on les emmène, nous, au dépôt, où des gens célèbres ont séjourné, puisque Chateaubriand y a passé quelques heures, et non pas quelques jours, comme on l'a prétendu, puisque le reste du temps, il a été hébergé chez le préfet de police de l'époque. Donc, quand ils sont extraits, quand on les amène pour aller en cour d'assises, par exemple, ou dans une chambre correctionnelle, ils sont d'abord amenés ici, ça s'appelle la souricière. Donc, ça correspond au numéro 32 des quais des Orfèvres. Et cette souricière, donc, elle est constituée de réseaux souterrains. Et ça arrive directement près des cabinets des juges ou près des chambres correctionnelles. Il faut savoir que les bâtiments du quai des Orfèvres ont été détruits en 1871 lors de la Commune de Paris par les Versaillais. Tout a brûlé, les archives de Paris pratiquement ont toutes brûlé, elles étaient derrière, une grande partie du palais de justice et surtout toute la préfecture de police. Parce que la préfecture de police, elle était au pied de cette tour pointue que vous voyez. D'ailleurs, on l'appelle la tour pointue. Elle est surnommée comme ça. Quand on parle de la PJ, on dit « j'ai été emmené à la tour pointue ». Les vieux voyous, ils disaient « la tour pointue ». Et donc, tout ça a brûlé en 1871. Alors bon, pour la préfecture de police, certains diront que c'était pas une mauvaise chose, puisque c'était tellement délabré, les bâtiments correspondaient par des passerelles d'un bâtiment à l'autre, et c'était tellement délabré que les gens mouraient de peur en traversant. Et donc ensuite, la préfecture de police a déménagé de là, on l'a emménagé de l'autre côté du boulevard, dans la caserne de la Cité, qui était surtout au départ le marché aux poulets, et le marché aux volailles. Donc d'où vient le terme poulet, quand on dit les poulets, et parce que au départ les gens ont dit ah les poulets, les flics étaient devenus les poulets parce que ils étaient logés sur le marché aux volailles, la maison Roicot, la poule, etc. Tout vient de là, voilà. Et donc ça, toute cette partie après a été reconstruite après l'incendie de la commune. Et en 1891, l'APJ a emménagé dans ces locaux. Ils font partie intégrante du palais de justice.
Et lorsque nous sommes dans ces lieux, nous sommes héritiers de toute cette histoire compliquée, très ancienne. Les murs ont changé, mais nous sommes toujours sur le même sol, et c'est très symbolique, est une île. Hein. Les îles sont souvent des prisons. Ici, nous sommes au cœur de Paris, sur une île. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que l'adresse de quai des Orfèvres est devenue célèbre. C'est un quai et pas une rue ou un boulevard ni une avenue. C'est un quai. Nous sommes sur une île. Et dans cette île, eh bien, gens de justice, gens de police se disputent des personnages qui sont amenés ici et qu'on appellera suspects ou criminels selon l'angle de vue.
Jean Tullard, faisons résonner quelques souvenirs ici au pied de l'escalier A de la direction de la police judiciaire, précisément là où Georges Simenon a été pris en photo, une photo célèbre d'ailleurs dont vous vous rappelez certainement. C'était au moment où il écrivait un article pour Paris Éclair. Il allait en 1930 créer le personnage de Maigret qui est associé étroitement au lieu. Ce lieu-là résonne un peu comme un lieu de mémoire.
C'est un lieu de mémoire relativement récent, mais c'est en même temps une tradition ancienne. En effet, sur le quai des Orfèvres débouchait la rue de Jérusalem, qui abritait l'hôtel des premiers présidents du Parlement de Paris, qui devint en 1800, lors de la création par Bonaparte de la préfecture de police où nous sommes, devint la résidence du préfet de police. Et les services de la préfecture de police avaient éclaté dans toute une série de maisons qui entouraient le palais de justice et l'hôtel du premier président, en sorte que vous voyez que déjà la police était éclatée en plusieurs bâtiments, dont un abritait l'ancêtre du 36 quai des Orfèvres, la deuxième division de la préfecture de police spécialisée dans la recherche des criminels, des vagabonds. C'était la grande époque de la police judiciaire. Mais nous étions, je le rappelle, rue de Jérusalem, et la rue de Jérusalem a disparu, de même que les bureaux d'Henri et de ses successeurs ont disparu dans l'incendie de 1871 avec, et alors là, je vous ai prouvé mon émotion profonde d'historien, les archives de la préfecture de police qui ont en grande partie brûlé, sauf une partie, c'est-à-dire que les archives les plus précieuses de la préfecture de police n'ont pas brûlé et ont ensuite, lorsqu'on a tout reconstruit, été montrées dans un musée de la préfecture de police, ici même, au 36 quai des Orfèvres. Et tout chercheur qui voulait travailler sur les archives de la préfecture de police devait emprunter ce fameux escalier.
Fameux escalier, et là on peut convoquer Jean Tullard quelques souvenirs familiaux, puisque votre mère travaillait ici aux archives et au musée de la préfecture de police de Paris, qui se trouvait au tout dernier étage sous les combles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Elle a dû les emprunter ces 148 marches, au moins 4 fois par jour, ce qui devait être pour elle quelque peu usant.
Alors elle a commencé, elle a été nommée en 1945. Elle était administrateur du musée et des archives de la préfecture de police. Il fallait prendre donc l'escalier du 36. On longeait la cage aux filles, où se trouvaient toujours des prostituées qui disaient « t'as pas une clope ?» En échange, je te montrerai mon C, point de suspension, je ne dirai pas C, point de franscule, français. Donc ça... on montait, on arrivait en haut, il fallait sonner, alors une porte s'ouvrait et il y avait un mannequin qui brandissait un poignard qui vous accueillait à l'entrée. Alors ma mère avait beaucoup enrichi ce musée, elle l'avait enrichi du fer à friser la barbe de Landru, du viseur par lequel Petiot regardait l'agonie de ses victimes qu'il asphyxiait. Il y a aussi un poteau d'exécution, on voit encore les impacts des balles, on voyait encore les impacts des balles. Bref, ce musée a fini par attirer énormément l'intérêt, puisque ma mère a accueilli aussi bien Hitchcock, James Bond, Sean Connery, Eddie Constantine, etc. J'ai encore quelques photos dédicacées de ses visites, le Comte de Paris. Et alors tout le monde venait pour voir ce musée, mais savait. Il y avait en réalité deux musées. Il y avait un autre musée, qui était dans le prolongement, qui était le musée des horreurs, où l'on trouvait des choses abominables, sexuelles, de pervers sexuels. Bien entendu, ma mère ne montrait jamais ce musée, et je dois vous avouer que c'est une bonne mère, je ne l'ai jamais vu. Je vous en parle de seconde main, si je puis dire.
Alors, si votre très chère mère, Jean Tullard, ne vous a pas orienté vers ce musée des horreurs, en revanche, vous allez lui demander quelques conseils lorsqu'il va s'agir pour vous de rédiger votre mémoire d'historien. Oui, et oui. C'est vers les archives là qu'elle vous fait plonger pour que vous rédigiez ce mémoire sur les premiers temps de la préfecture de police, 1800-1815. Oui. On comprend aussi que c'est peut-être là où va surgir votre véritable passion, c'est-à-dire à la fois la littérature policière et le cinéma.
Alors effectivement, deux sujets austères, la création et les débuts de la préfecture de police 1800-1815, vous voyez que vous débouchez d'abord sur le roman policier, puisque les premiers romans policiers mettent en scène, le premier c'est Double crime dans la rue Morgue, met en scène Dupin, mais aussi les inspecteurs de la police de l'époque. Ensuite, ce sera Gaboriau avec Monsieur Lecoq, et donc là encore, description de la police judiciaire, de celle avant 1871. Et est arrivé, bien entendu, Maigret. Alors Maigret, c'est vraiment... Là, nous sommes maintenant au 36, vraiment, quai des Orfèvres.
Vous dites ça, on peut dire que le 36, celui qui va le rendre célèbre, c'est véritablement Georges Simenon.
Ah, c'est Simenon. C'est Simenon qui va le rendre célèbre avec Maigret, parce qu'il est venu sur place, il a fréquenté toutes les brasseries alentour, il a mangé les sandwichs de Maigret, la bière pression, etc. Donc c'est lui qui crée le mythe du 36, quai des Orfèvres, qui va être amplifié par le cinéma et par le chef-d'œuvre de Clouseau, quai des Orfèvres, où l'on voit précisément cet escalier reconstitué, mais admirablement reconstitué, cet escalier qui est une rencontre entre trois univers différents, celui de la police, celui de la justice et celui de la délinquance.
Mademoiselle de Ramonier, s'il vous plaît.
Tout rez-de-chaussée.
Je sais, mais ne réponds pas. La concierge m'a dit de m'adresser à vous à tout hasard.
Vous tombez mal d'en être en course.
Tant pis, je la ferai convoquer à la PJ.
Attendez donc, vous êtes de la police?
Eh madame, au plaisir.
Mais vous ne sauvez pas comme ça de revoir venir tout de suite. J'ignorais qui vous étiez, moi je vous prenais pour un placier d'aspirateur. Ça vous vexe pas?
Oh, pas du tout, c'est un très bon métier. Hein.
Dites donc. Pour Dora, c'est pas grave.
Oh, pensez-vous de vos petits renseignements?
Si c'était grave, l'inspecteur ne le dirait pas.
Certainement.
À vous voir, je vous aurais jamais pris pour un policier.
Ouais.
Vous n'avez même pas d'imperméable.
Ah, j'en avais un, me l'a volé.
À vous?
Oui.
Ah, pas vrai? Où ça?
Ah, dans mon bureau.
Et vous n'avez pas attrapé le voleur?
Oh, qu'est-ce que vous voulez, la maison est une turne. On entre, on sort, on y va et tout. C'est pas mon boulot, moi je suis de la criminelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça n'a pas de rapport avec les autres brigades.
Alors les bâtiments sont vétustes, c'est sûr. Vétus parce que ils sont classés monuments historiques, donc on n'a pas le droit, ne serait-ce que normalement, d'y planter un clou. On doit demander des autorisations pour tout, ce qui explique aussi que on a cet escalier assez pénible. Techniquement, il est très difficile d'y implanter un ascenseur, mais de toute façon, monument historique, on n'aura jamais l'autorisation. Donc, il n'y a jamais eu d'ascenseur. Et c'est vrai que cet escalier est un petit peu épuisant. J'en garde un cruel souvenir où, à une certaine époque, c'était en 1975, j'étais pris d'une crise de sciatique terrible et je me traînais littéralement dans l'escalier. Je peux vous dire que les marches, j'ai eu le temps de les regarder une par une.
Tout à l'heure, on entend derrière nous, Michel Malherbe, des bruits de travaux, là, ici dans la salle de garde, juste au niveau de l'entrée du 36, de ce qu'est des Orfèvres. Ça veut dire que les travaux sont là pour effectivement un peu mettre aux normes et continuer à améliorer ce qui peut l'être dans ces bâtiments que vous dites vétus, que tout le monde sait être vétus, et peut-être pas correspondre à l'image qu'on se fait d'une police
historique,
moderne.
Historique.
Mais historique. Ceci dit, il y a toujours l'idée, c'est pas nouveau, d'un déménagement des services.
Ben, on en parle depuis si longtemps. On en parle depuis si longtemps, mais je sais pas, mais le quai des Orfèvres, la PJ sans le 36 quai des Orfèvres, ce serait plus la PJ, elle va perdre son âme.
Escalier A, direction de la police judiciaire. François Guérif, spécialiste de littérature policière, éditeur. Il y a comme un imaginaire qu'on peut convoquer, non?
Oui, bien sûr, parce que c'est un lieu où se passe un certain nombre de films et de romans policiers. En tous les cas, il y a presque toujours une scène là-dedans. Et puis surtout, je trouve que c'est chargé parce que, selon l'imaginaire à la fois des romans et des films, c'est dans ces locaux-là que se déverse d'une certaine façon toute la misère du monde. C'est-à-dire que les murs, les couloirs, les petits bureaux sont enregistrent peut-être les aveux les plus tragiques comme les plus pitoyables. Et alors c'est un lieu qui pour moi est concrétisé par un film qui n'a pas été tourné ici, qui s'appelle Quai des Orfèvres, où je trouve que Jouvet personnifie admirablement ce vieux flic intègre qui ne s'occupe pas de son avancement mais de la progression de l'enquête, que rien ne fera dévier de son chemin. Et c'est d'autant plus drôle que c'est tiré d'un roman qui lui ne se passe pas au Quai des Orfèvres.
Ah oui?
Oui, le roman Légitime Défense de Slimane ne se passe pas du tout au Quai des Orfèvres.
Attention, il y a une marche où beaucoup de gens se sont cassés la figure. Avant vous, le piège est évité. Ouais, là-bas, vous avez la... Si vous allez à la fenêtre, vous voyez l'angle du 36 et des Orfèvres et les sous-pentes sous les toits, là, vous voyez, les lucarnes sont sous les toits. Alors, plus là, vous avez en bas, vous voyez le restaurant où, théoriquement, des jeunes maigrets.
Vous me pointez quel restaurant, monsieur Jox?
Paul, il y avait 3 cafés Place Dauphine autrefois. Maintenant, ce sont des restaurants un peu chers. Et quand j'étais enfant, même, je suis né ici, moi. Il y avait des cafés bon marché, c'était très différent. Comme, et il y avait des flics, des gendarmes, des gardes républicains dans tous ces cafés qui prenaient les relèves. Enfin, c'est très lié. Là, vraiment, on comprend que les gens de la police judiciaire, ils ont envie d'être là parce que ils sont dans le dispositif de la justice. C'est à la fois... La préfecture de police n'est pas loin, mais le palais de justice est là. Donc, ils sont... On va peut-être s'asseoir là-bas.
Ceci dit, restons ici devant votre fenêtre de la place Dauphine où Pierre Jox, vous nous confessiez avoir passé toute votre enfance.
C'est pas une confession.
C'est de notoriété.
J'y suis né. Alors...
Ça veut dire que s'il fallait continuer à évoquer, parce qu'on voit le sommet de la tour pointue là-bas du 36 ouais. Quai des Orfèvres, enfin, donc on voit ce bâtiment, s'il fallait évoquer et convoquer des souvenirs d'enfants, justement, par rapport à ce lieu et à ces mythologies, dans le sens martyr.
Ah ben, un souvenir très précis, c'est que quand j'avais 22 ans, quand j'étais reçu à ma licence de droit, j'étais tout content, je suis descendu pour rentrer déjeuner chez moi et je suis passé quai des Orfèvres, comme tout le temps depuis mes études. Et il y avait le tribunal correctionnel. Et je me rends compte, c'était en 57, que j'étais jamais entré dans un tribunal. À l'époque, on pouvait être licencié en droit sans être jamais entré dans un tribunal. Et il était 13h, 13h15, j'entre dans le tribunal correctionnel, la chambre qui s'occupait de ce qu'on appelait les flagrants délits. Et j'entre, et c'est public, je m'assieds, et la pétrifiée, j'avais 22 ans, je vois condamné à des peines de prison, ou relâché, 15 jours de prison, des peines d'amende. Généralement, des pauvres gens, qui avaient des petits larcins, des petites violences, etc. Et je, tout d'un coup, je vois le droit s'appliquer de façon extrêmement rapide, pas d'ailleurs, pas tellement cruel ni injuste, mais très, assez brutal. Et alors là, c'est là vraiment qu'est les Orfèvres que j'ai eu ma première leçon de droit pratique. Et pour la petite histoire, ma mère croyait que j'étais collé et que je m'étais jeté dans la Seine de désespoir. Mon père, me voyant pas arriver à déjeuner, est monté à fac de droit. Il a vu que j'étais reçu, il est retourné dire à ma mère, il a dit non, il ne s'est pas noyé dans la Seine, il doit être en train de boire avec ses copains.
Donc voilà un souvenir qui fait référence évidemment à votre carrière de juriste, mais pas du tout, donc du coup, Pierre Jox, à ce poste-là que vous allez endosser par deux fois dans les années 80 de ministre de l'Intérieur. Donc pas de souvenir policier appliqué au 36 ? Pas de roman si, qu'on lisait à sa société ?
Ah si, 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 les romans. Bien sûr, puisque je dis que d'abord on les voyait, et ensuite j'aimais beaucoup les romans policiers, et Maigret en partie parle du Quai des Orfèvres, de la Place Dauphine, du pont, de tout, etc. Donc, mais j'ai pas eu, non, quand j'étais jeune, j'ai eu des relations avec la police dans la rue, que je manifestais contre la guerre du Vietnam ou contre la guerre d'Algérie, mais c'était pas la PJ. Allez, on va s'asseoir, parce que on a des rigolos.
Dis-donc, Émile, t'es ton secteur, pas-ci ? Il a pas envie qu'on l'a fait blanc, un petit blanc.
Ouais. Tu vas croire que c'est pour faire le mariole, mais j'en ai chargé une, moi, de femme blonde, ce soir-là. Je l'ai prise près de la villa, et je l'ai menée rue des Bourdonnais.
Et ben pourquoi tu vas pas raconter ça aux flics? Ça les intéressait?
Bah, dis donc, est-ce que j'ai une tête de mouchard? Je m'en fous, moi, de leur crime. Ils n'ont qu'à se manier le train, c'est leur boulot.
N'empêche que si t'étais un bon citoyen...
Je suis un bon citoyen. La preuve, c'est que moins je vois les flics, mieux je me porte.
Rentrons alors dans cet escalier A de cette direction de la police judiciaire et de ces fameuses 148 marches. Évidemment, en convoquant comme ça l'histoire et le mythe, c'est à ceux qui ont ici gravi avant nous ces marches-là et peut-être dans leur dernier voyage d'homme libre. Que l'on pense.
Ces marches noires, cette rampe usée, c'est pas très engageant. C'est pas très engageant. Dès qu'on arrive sur un palier, on peut jeter un œil dans des couloirs qui sont dans le plus pur style administratif, hein. Des murs jaunes, des bois pas très ornés. Bon, il est certain que c'est un lieu qui ajoute à l'angoisse d'une arrestation. S'ajoute celle de cette montée.
Monsieur Morin, si vous voulez bien me suivre, monsieur le divisionnaire va vous recevoir. Ça aurait été vite.
Dites donc à Paul de monter des sandwichs et de la bière. Bon, 5 ou 6. Ouais.
Alors on va pas y aller avec forcément des baguettes et pour les sandwichs et la bière. Ouais. Parce que ça aussi, ça fait partie du décorum, des choses qui sont peut-être dans la tête de chacun. Mais ici, en gravissant, en montant cette première marche de cet escalier qui en comporterait, hein, 148. Oui. Quelle impression vous avez, François Guérif?
J'ai l'impression de... En même temps, c'est assez drôle de gravir un décor de cinéma. J'ai l'impression, en effet, de rencontrer... que je vais rencontrer Jean Gabin ou Louis Jouvet ou Nino Ventura dans les films. Parce qu'ils ont habité ces murs de façon imaginaire, mais en tous les cas, ils s'en sont imprégnés.
Vous croyez que c'est aussi... que ce lieu est devenu, en quelque sorte... une légende ou un mythe?
C'est absolument devenu un mythe. C'est d'autant plus un mythe que un certain nombre de romans policiers, je me suis rendu compte, dont aucune scène ne se passe au Quai des Orfèvres, font allusion au Quai des Orfèvres. Alors, en l'appelant la Maison Poulaya, par exemple, ou des choses comme ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, à l'arrière-plan, même chez les jeunes auteurs, quelque part, comme si c'était un film fantastique, dans la brume au loin, il y a le Quai des Orfèvres. Quand on parle de police et tout, c'est pas le commissariat de quartier qui fait rêver, c'est le Quai des Orfèvres.
Le sanctuaire.
Le sanctuaire. D'autant plus que c'est vraiment un sanctuaire, encore une fois, comme dans le film de Clouseau, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, parce qu'il faut monter ses marches, parce que les couloirs sont vraiment étroits, parce que les bureaux sont vraiment petits, parce qu'on y croise des personnages dignes de romans. un policier avec un livre de philosophie sur la table, qu'on y peut y boire aussi le verre de l'amitié ou au contraire subir un interrogatoire, tout ce qu'on veut, mais les locaux eux-mêmes avec ces murs fatigués, ces vieux escaliers, ces rampes en bois, ça rejoint tout à fait, j'allais dire franchement, le film de Clouseau, c'est-à-dire 1947.
C'est fini ce coup-ci, je peux m'en aller?
Pas tout à fait.
Écoutez, ça fait 2 heures que je suis derrière cette table à répondre à des questions idiotes.
Oh, il y a 10 ans que je suis devant à les poser. Est-ce que je m'énerve, moi? Hein? Vous voulez du feu? C'est le même prix.
Merci.
Regardez, Jean-Tuilard, cette porte a un peu changé. Hein.
Non, elle est toujours à regarder, même la peinture.
Le linoléum a peut-être été changé.
Il me semble qu'il y avait là, et il y avait là, la cage aux filles.
Juste à l'entrée. Hein.
Juste à l'entrée. Ou alors c'était de ce côté. Enfin, et donc c'était une cage, avec des barreaux, donc, et on voyait les malheureuses ou heureuses qui attendaient là.
Escalier bruyant.
Escalier bruyant, oui, mais je vous dis là.
Un peu patiné.
Oui, patiné, mais c'est ce qui fait son charme. Et je pense que là, cette rampe à laquelle je me tiens doit être effectivement d'époque. Je ne crois pas que ça ait été repeint très souvent.
Alors, vous voyez les fameux escaliers du 36 quai des Orfèvres. En plus, ils ont une résonance assez particulière. C'est très curieux parce que les gens de certaines brigades, comme la BRI, partent en opération, c'est urgent.
L'anti-gang.
Et vous entendez les marches, ça fait un raffut pas possible, tout le monde descend. Voilà. Au-dessus, vous allez voir, on a un demi-palier qui rentre dans le palais de justice, directement à la cour d'appel. Et ce qui fait que c'est pour ça que les locaux ici sont très difficiles à garder.
C'est vrai. Michel Malherbe, que ce premier palier de l'escalier du 36 est assez étrange en soi au niveau du ballet qui est orchestré. J'imagine que ça devient tout de même un peu plus silencieux et un peu moins fréquenté quand on commence à pénétrer à l'intérieur véritablement des services, ce qui n'est pas le cas ici.
Oui, à peine, hein, vous verrez, puisque sauf la nuit où il y a beaucoup moins de monde quand même, fort heureusement, les policiers dorment parfois, mais non, c'est un escalier qui est très très fréquenté. Bon, cette partie surtout, puisque il y a effectivement déjà tous les gens du palais de justice, puisqu'on a une entrée au-dessus, les avocats, évidemment, ils vont pas faire tout le grand tour alors qu'ils peuvent monter par là. Donc il y a un peu plus de monde ici, mais c'est malgré tout un escalier très fréquenté.
Regardez, François Guérif, à votre gauche, c'est censé être ici, sur ce premier palier, que l'on a découvert Cécile.
Oui, dans le roman de Simenon et le film de Maurice Tondeur, d'ailleurs, où c'est Préjean qui fait Maigret. Oui, c'est dans, si je me souviens bien, dans le livre... Et dans le film, c'est un placard à balai ou quelque chose comme ça. On retrouve cette vieille femme qui était venue pour une plainte que les policiers au début croient un peu imaginaire et qui finalement se révèle très convaincante. Là, il y a un symbole, c'est vrai, il y a ces marches du malheur. Il y a un film américain qui disait à un moment, qui a été appelé la dernière marche. Ça me fait pas un peu penser à ça. Je pense que pour quelqu'un qui rentre ici... qui vient d'être arrêté pour un délit grave, un crime, etc. Cet escalier, c'est comme un Golgotha, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça. Et c'est... En plus, je trouve que le symbole de l'escalier qui tourne et qui... On ne voit pas obligatoirement le palier qui est devant, c'est assez représentatif des situations.
Une fois passé le premier étage, on peut lui accorder une certaine majestuosité aussi.
Absolument. C'est un lieu qui aurait été très très bien filmé, qui serait très bien filmé par Claude Chabrol, ou qui aurait été très bien filmé par Marcel Carné, ou sinon Marcel Carné, vous savez, sa marotte, c'était de toujours situer une scène dans un escalier, parce qu'il savait filmer les escaliers.
Donc le film resterait à faire, et il pourrait même être baptisé Les 148 marches.
Les 148 marches, absolument. Après les 39 marches, les 148 marches. On demande un scénariste.
Comme je vous disais, vous avez une certaine résonance. Et ce bruit, c'est curieux parce qu'au bout de plusieurs années, On l'a toujours dans la tête. C'est très curieux. Boum, boum, il a... Il n'a pas un bruit d'escalier normal, vous voyez. On a l'impression que tout est creux en dessous. Et peut-être que c'est vermoulu, j'espère que non, mais il est plutôt jeune. Alors,
le linoléum a
le linoléum, moi je crois que je l'ai vu changer une seule fois en 30 ans. Donc c'est quand même résistant, c'est de la bonne qualité. J'ai dû le voir changer une seule fois en 30 ans. Dans cet escalier, ma foi, il y a pas mal de chutes hein, quand même, malgré tout. Hein. Vous savez, c'est vite fait. Hein. Il suffit de vous prendre les pieds une fois dans une bordure. Moi, j'ai dévalé pratiquement un demi-palier une fois. Hein. Je me suis retrouvé l'épaule contre un mur. C'est ce qui fait dire aux mauvaises langues que quand un détenu chute dans les escaliers, c'est les policiers qui l'ont poussé. C'est faux. On peut tomber tout seul.
On continue l'ascension, on continue. Michel Malherbe. Et en même temps qu'on les monte, ces 148 marches, défilent un peu vos souvenirs. C'est ça qui est intéressant.
Oui, oui.
Nous montons toujours. Et ce qu'il y a d'admirable, c'est qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Et qu'il n'y a toujours pas d'ascenseur. Ce qui est très bon pour le cœur. Et c'est passé.
C'est là où l'entrée devient filtrée. C'est-à-dire que les touristes qui s'égarent, qui viennent de la Sainte-Chapelle, peuvent des fois arriver jusqu'ici en demandant d'aller voir le bureau de Maigret, il paraît.
Ah bon ?
Bonjour, nous sommes attendus au bureau de M. Garnier. Vous annoncez M. Hérault et M. Tullard. Oui.
Comment ? Bien sûr, là, il n'y avait pas la cage vitrée. Les procédés de fermeture, c'était des portes qu'on poussait. Et alors ça, il y a une chose nouvelle, interdiction de fumer. Car ça, c'est dommage, parce que, effectivement, rappelez-vous, Jouvet a toujours, dans Quai des Orfèvres, une cigarette au bec, car la cigarette joue un rôle capital.
Alors, pénétrer à l'intérieur du bureau dit de Maigret, oui. Celui donc du chef de la brigade criminelle, sans avoir ce léger fumé de tabac de pipe, va être pour vous décevant.
Oui, oui, ça c'est, je reconnais que... De ce point de vue, nous allons être un peu déçus.
Bruno Fulini, on vient d'accéder à cet escalier du 36. Et puis, il ne faudrait pas croire que l'on rentre dans cette vénérable maison-institution comme dans un moulin. Si votre livre s'appelle d'ailleurs ainsi, « Dans les secrets de la police », c'est que c'est un lieu très préservé du public où les autorisations, par exemple d'enregistrement, ne sont pas accordées avec facilité.
Oui, certainement, c'est tout à fait normal parce que c'est un lieu où passent des gens qui ont été arrêtés sur la voie publique, dont on ne sait pas à l'avance s'ils vont être condamnés ou non, bien sûr. Il peut y avoir des échanges de conversations, il peut y avoir des scènes parfois violentes, pourquoi pas. C'est bien ce qui explique que l'accès ne soit pas ouvert à tous. D'ailleurs, personne n'est très très content d'être convoqué, hein.
On a passé le sas, mais l'escalier continue, c'est pas terminé.
Bonjour.
Toute cette partie est occupée par la direction, donc il y a le cabinet des directeurs, le directeur, les sous-directeurs. De l'autre côté du sas, et l'état-major, c'est un petit peu le cerveau de la police judiciaire.
La voiture est en bas, chef. Un type qui vient de se faire descendre chez lui à Passy. Domestique l'ont trouvé en rentrant.
Non, il y a des gens qui choisissent leur jour. Seul de manger, de se faire bigorner, ce connard-là, il pouvait pas remettre sa main.
Lui n'aurait peut-être pas demandé mieux.
Mais ben, moi donc. Demain, Balandieu prend la permanence. Il aurait été ravi, Balandieu, hein. Ça le chatouille d'être appelé monsieur le principal.
Et sans vous commander, chef, faudrait vous brouiller, on doit encore passer prendre le patron.
Patron Zérange ?
En personne.
Ah, bravo. C'est pas qu'il soit tellement fortiche, le patron, mais y a pas de raison qu'on soit les seuls à être emmerdés.
Alors, sans vous transformer Jean Tullard en prévenu, je vous suggère un saut dans le temps et d'aller directement au plus profond et du mythe dans le bureau 305 occupé actuellement par le patron de la brigade criminelle qui est Loïc Garnier, dans ce qu'on appelle au troisième étage ici de cette escalière, le bureau de Maigret.
Hein ? Allons-y.
Bonjour monsieur.
Je suis très honoré que vous nous accueillez ici.
Bienvenue dans le bureau de Maigret.
Mais oui, j'ai dû le voir, mais j'entends en 1947 ou 48, donc Simenon vivait encore. Mais je ne me souviens plus. Il est très beau, là. Il est bien peint. Il est bien. Alors qu'à l'époque, puisque, comme je le disais, ma mère était donc conservatrice des archives et du musée de la préfecture de police entre 1947 et 1970. Et où il n'y avait pas du tout cet admirable chauffage central, mais des poêles.
C'est votre maison, finalement.
Ça a été, oui, mon enfance. Oui, c'est mon enfance et mes premiers travaux universitaires, puisque je les avais faits dans les archives de la préfecture de police. C'est comme ça que je suis devenu un spécialiste de Fouché. Et bien entendu de Dubois, qui fut le premier préfet de police. Donc, et puis bien entendu de votre prédécesseur que j'évoquais tout à l'heure, c'est Henri. Henri qui fut le premier patron de la police judiciaire. Enfin, c'était des divisions, c'était la deuxième division, et lui-même était chargé de la chasse aux criminels. Et alors, c'était pas du tout un homme d'action, c'est un homme qui procédait par déduction. Et donc, Henri raisonnait ainsi, et je rappelais qu'Henri est l'inventeur, au sens propre, de Vidocq. Car comme il n'allait pas sur le terrain, il envoyait d'anciens bagnards qu'il avait recrutés. D'un autre côté, les mémoires de Vidocq ont contribué à... C'est le début, enfin. Ont contribué au prestige de vos services, parce que les mémoires de Vidocq ont été un best-seller. Il aurait dû arranger pas mal les choses, mais ça démarre de là. Vous savez, une grande tradition.
C'est vrai que nous méconnaissons, d'ailleurs, pour la plupart d'entre nous.
Mais peut-être qu'un des soucis, justement, du chef de la crime que vous êtes, Loïc Garnier, c'est de se débarrasser, après tout, de cette histoire, de ces mythes qui sont ici terriblement associés à votre lieu de travail, et de pénétrer dans ce bureau 315 du troisième étage de l'escalier A, ici, dans le bureau d'Yves Maigret, avec un peu de virginité par rapport à ça.
Non, s'en débarrasser, bien au contraire, on doit vivre avec son histoire. L'histoire du lieu fait partie de nous-mêmes, de notre travail. Il y a un poids émotionnel, il y a un poids historique. Et on doit d'autant plus respecter le lieu qu'il s'est passé beaucoup de choses, qu'il y a eu des personnages célèbres dans le bon sens et dans le mauvais sens qui l'ont fréquenté. Non, cette histoire, au contraire, il faut en tout cas lui accorder la place qu'elle mérite dans ces lieux. Oui.
Vous avez vu, Jean Tullard, il y a un parfum agréable dans le bureau de Maigret.
Oui, nous avons... J'avais fait remarquer que j'ai été profondément choqué en arrivant dans vos services de voir interdit de fumer. Parce que j'évoquais l'inspecteur Jouvet dans le Quai des Orfèvres, qui a toujours le clope à la lèvre, que ce soit le commissaire San Antonio, le commissaire Maigret, ils ont tous la pipe. Le tabac fait partie de la police. Le tabac, au bon sens du terme, je ne parle pas du passage à tabac, mais le tabac lui-même, c'est dans la tradition et c'est le moyen de faire parler quelqu'un, un prévenu, en disant « alors tu veux une cigarette ?» On sort le paquet, ça met en confiance et le type part.
C'était.
Et on nous rentrera un peu dans ces pratiques et ces us et coutumes ici.
Et vous parliez de Jouvet et de Quai des Orfèvres. Ce film a été tourné en partie... dans ces deux bureaux.
Mon Dieu de sort, si j'avais su.
Très joli, Antoine, c'est du propre. On ne peut pas dire qu'on est secondé. Dès que j'ai le dos tourné, les conneries commencent.
Une minute, patron, je suis à vous. Encore un mot avec monsieur.
Quatrième étage, brigade criminelle, François Goffinon, il ne reste que 17 marches
pour arriver au cinquième.
Oui.
Ici, au quatrième, on est toujours dans les locaux de la brigade criminelle, ici au 36. Qu'est-ce qui a changé depuis votre départ de la maison en 2001?
Alors, ce qui a changé, d'abord, c'est l'esprit. Il y a maintenant des locaux techniques sur le palier qui n'existaient pas, si bien qu'on n'a pas la vue qu'on avait auparavant. La photocopieuse, tout à fait moderne et très pratique certainement, n'existait pas. Ah ben ça sert très très bien, bien sûr, mais enfin, tout ça n'existait pas. En conséquence de quoi, ici, c'était plutôt... Les paliers étaient un forum où les gens se rencontraient. Alors que maintenant, c'est difficile, ça fait des coursives.
Oui.
On n'y est plus. Et donc, à droite, quand on est sur le palier à droite, on se retrouve donc dans une espèce de cage.
Vous connaissez encore les gens.
Tout le monde,
voilà.
Salut,
bon François.
Salut. Donc, oui, parce que certains pensent que je suis toujours en activité et que j'ai toujours pas parti en retraite. Et donc, lorsqu'on arrive à droite, il y avait ici, simplement, c'était ouvert sur le hall, enfin, sur l'antichambre de la direction. Et lorsqu'il y a eu des tentatives de suicide, parce que ce sont les locaux de la section antiterroriste qui était ici, et il y a eu des tentatives de suicide, donc dans un premier temps, on a mis un filet, de façon à ce que les gens ne puissent pas passer dans la cage, dans cette espèce de surplomb de l'antichambre.
Ça, c'était Nathalie Ménigon.
C'est Nathalie Ménigon. D'une façon générale, c'était des gens d'Action Directe et des gens et des terroristes de la bande de Bader. C'était des furieux. Donc, il a fallu protéger ceux qui n'étaient pas naturels de protéger, parce que même les voyous ne se jettent pas là.
Tout comme il a fallu, l'année d'après votre départ du 36, François Goffinon, protéger les fameux Velux, parce que personne n'avait encore imaginé, que quelqu'un pouvait, comme Richard Durne l'a fait,
oui.
Se précipiter.
Non, c'est difficilement imaginable. On a eu ici, au fil des décennies, des gens extrêmement dangereux, etc., mais personne n'a eu ces comportements-là. Ce sont des comportements totalement imprévisibles.
Patrick Bourbotte, à peine je pénètre à l'intérieur de votre bureau, cette petite alcôve au quatrième étage de la brigade criminelle, ici au 36, que s'offre à nous une photo. Laquelle ?
Les escaliers du 36. Enfin, l'escalier du 36.
Pourquoi ?
Parce que je l'ai faite. Parce qu'elle me plaît, parce que elle a plu à pas mal de monde à la brigade, et que tout le monde se retrouve un petit peu dans ce monument qui ne peut pas accueillir de cage d'ascenseur. Quand on est arrivé, les anciens nous ont dit voilà, il y a tant de marches. Voilà. Bienvenue à la crime, voilà, il y a tant de marches.
148 marches. Voilà. Pour un nombre de destins. Certainement supérieurs qui se sont joués ici en les gravissant, et puis on l'oublie en les descendant, peut-être plus avec le même statut.
Ouais, effectivement, il y a la. Bah, c'est un peu comme à Cannes, hein. Il y a la montée des marches. Voilà. Il y a déjà l'arrivée, ça, bah, c'est quelque chose que j'ai déjà un petit peu vu dans ma courte carrière ici, mais ça fait un peu moins de 10 ans que je suis là. Des gens freinaient les cas de fer à partir du moment où, étant dans la cour. Intérieur du 36, ils arrivaient devant le panneau direction de la police judiciaire. Tout en étant maintenus, ils se raidissaient, mettaient le corps un petit peu en arrière, ils avaient du mal à passer le palier.
Avec ou sans menottes ?
Avec ou sans menottes, mais toujours quand même avec le minimum de coercition pour leur sécurité et la nôtre.
Alors cette réticence, effectivement, est à un moment donné où ils vont les gravir. Donc vous avez des souvenirs en tête ?
Oui. Oui, en effet, des souvenirs qui sont pas personnels, mais des souvenirs qui sont le vécu commun de la brigade et qu'on se transmet de génération en génération. Donc la montée des marches de Guy Georges, que moi, personnellement, je n'ai pas connu, je suis arrivé un peu après.
Qu'est-ce qui s'est passé, là ?
Oh, ça a été une espèce de haie, non pas d'honneur, hein, mais de haie des fonctionnaires du 36, devant l'arrivée de ce personnage.
Que certains appelaient le monstre.
C'est surtout que c'est quelqu'un qui intéressait tous les groupes parce qu'il avait commis suffisamment de faits pour que plusieurs groupes à la brigade soient saisis d'homicides. Effectivement, dont certains monstrueux. Voilà. Pour le reste, d'autres souvenirs plus personnels de gens qu'on devait quasiment porter pour les faire arriver jusqu'au palier du bureau où ils allaient être entendus.
Donc l'impression quand même d'une sorte de théâtralisation.
Bien sûr, mais tout ça, ça compte. Hein. C'est tout ce qui concerne la justice, la police, doit être un peu théâtralisé. Il est évident qu'un bâtiment en pierre haussmannienne, ou pierre même beaucoup plus ancienne, aura toujours plus d'impact dans l'imagerie collective qu'un préfabriqué. Voilà.
S'il fallait plonger, c'est un peu de l'intimité, mais ou un peu de l'intime de ce territoire-là, en tout cas, dans cette sphère privée-là, cet imaginaire de môme que vous aviez. Déjà, le 36 était façonné. Déjà, il y avait un but à atteindre.
Non. Non, la police certainement, la police judiciaire à coup sûr. Le 36, c'est venu plus tard. C'est venu quand j'étais déjà étudiant. Voilà. Mais j'avais déjà, par le cinéma, notamment le vieux cinéma français, une certaine imagerie, quoi. Voilà. Donc on parlait tout à l'heure de mythe, mais c'est une certaine imagerie du flic. Le flic au milieu de la société, avec son pardos, avec son galure, sous le réverbère, la nuit, qui planque. Voilà, c'est ce genre d'image toute faite qu'on peut encore retrouver un petit peu dans le 36. C'est une espèce de creuset dans lequel on peut mettre les films, on peut mettre cette iconographie du poulet, hein, façon Nestor Burma, ou donc. Le 36, c'est un peu tout ça.
Et si vous aviez envie, Patrick Bourdotte, avec votre regard de procédurier, ici au sein d'un groupe de la brigade criminelle, envie de dépoussiérer une mythe, vous nous diriez quoi aujourd'hui ?
Je vous dirais que j'ai pas envie de dépoussiérer le mythe. Moi, je vous dirais que ce qui me plaît, c'est d'être là où je suis. Moi, je suis dans mon décor, je suis très bien. C'est un flic ici, et un flic plus largement, je trouve, en police judiciaire. Un flic, il se voit bien arriver la nuit sur une scène, que ce soit une scène morbide ou une scène infractionnelle, une scène de crime plus généralement, pas forcément un homicide, franchir un cordon de sécurité, s'annoncer et puis arriver sur le lieu des faits et constater, avec toujours les badauds derrière le barrière, etc. Ça fait partie un petit peu du. Voilà. C'est ce qu'on aime sentir, et c'est d'ailleurs ce que les flics aiment y retrouver sous la plume des écrivains. C'est ce côté-là, ce côté happy few, la nuit, voilà, on est entre nous, on partage un moment un peu magique, un peu précieux.
Tu rentres tard, tu pars tôt ?
Il y a plein de flics qui rentrent tard et qui partent tôt.
Il y a plein de flics qui finissent tout seuls. Ce que tu cherches ?
Je ne cherche rien. Je fais mon travail, c'est tout.
Salut, ça va ? Et là, on a donc l'escalier qui mène au toit. Voilà.
Qui est ouvert,
parce que je pense qu'un complice a dû l'ouvrir. Voilà. Alors ici, cet escalier, maintenant, est en fer. Avant, c'était une échelle de meunier, jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Voilà. Et ça menait dans une espèce de sous-pente. Tout ce qui était peu ragoûtant, on le faisait sécher là-haut, car c'était à tout vent, quoi.
Donc des choses qui appartenaient aux scènes de crime, qui étaient ramenées ici, sous scellées.
Oui, oui. Voilà, mais si vous voulez, on va monter, je vais vous expliquer.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Mais quelle heure est-il ?
L'heure de se lever, on va aller faire un petit tour. Allez, habillez-vous.
Se déshabiller, se rhabiller. Mais où est-ce qu'on va ?
Chez les orfèvres.
Encore ? Non, mais ça devient une marotte. Vous allez m'embarquer comme ça tous les combien ?
François Gouffranon, c'est assez superbe parce que dans cette, Dans cette petite mansarde là, c'est une pièce assez étroite, hein, d'une dizaine de mètres carrés, une quinzaine, allez, qui ressemble à un petit studio.
Oui, enfin au sol, parce que la hauteur sous plafond, comme on dirait, c'est très mansardé. Alors, donc ici, vous aviez, d'ailleurs, regardez, vous avez encore les vestiges maintenant, tout ça est bien sûr, a été modernisé, heureusement finalement, heureusement. Donc il y a un sol carrelé, alors qu'avant c'était un plancher. Il y a de quoi se laver les mains, il y a du daquin, enfin il y a un certain nombre de choses qui n'existaient pas du tout. Mais si vous regardez la poutre là, il y a encore tous les trous de clous, parce que on plantait des clous de façon à faire sécher, encore une fois, faire sécher les vêtements. Et puis il y a des choses qui sentent horriblement mauvais. Donc ici, il n'y avait pas ces protections là, donc on était sous le toit complètement. C'était très aéré et ça séchait très bien.
Alors, derrière nous, ce sont les cloches de Notre-Dame, évidemment.
Oui, absolument.
Sous un soleil rasant, il y a la flèche de la Sainte-Chapelle.
Alors
et
là,
tous les toits parisiens.
C'est une des plus belles vues de Paris.
Avec alors, c'est la un tour petit Saint-Jacques.
Peu de... Alors, la tour Saint-Jacques, qui vient d'être dont la réfection vient de se terminer. Et ici, ben venez, excusez-moi, vous allez voir. Baissez-vous parce que c'est très exigu, hein. Voilà, donc ici, vous avez une vue tout à fait exceptionnelle sur le dôme du tribunal de commerce, sur bien évidemment la Sainte-Chapelle, sur Notre-Dame, sa flèche, et puis, bon, alors vous avez un petit peu plus loin, vous avez le centre Pompidou, mais si vous regardez, vous avez le Sacré-Cœur plus loin, vous avez bien sûr la Tour Eiffel, on voit jusqu'à l'Arche de la Défense. Alors, pour la petite histoire, mais alors ça, je vous parle de ça au début des années 70, il y a prescription. On montait ici, l'été, et on avait... c'est pas racontable, mais enfin, on avait deux, trois collègues féminines qui nous faisaient un petit barbecue, ici, le long des chenaux qui donnent sur la place Dauphine. Car c'est un véritable cheminement. Vous pouvez passer... vraiment très loin, on peut faire le tour.
Il y a côté fantômas là. Hein.
Ah, tout à fait, ouais, tout à fait. Et quand vous êtes dans les chenaux là, vous pouvez vous allonger tranquille, faire une bronzette, personne ne viendra vous chercher là, c'était impossible. On vous aperçoit évidemment pas de la place Dauphine, enfin on vous voit de nulle part. Enfin, ce sont les toits de Paris quand même. Hein. Ouais, c'est magique ici, mais cet endroit est magique. Et c'est ça participe également à l'esprit du Quai des Orfèvres. Les toits participent à l'esprit du Quai des Orfèvres. Je ne sais pas si nous étions à la Tour Montparnasse, je dis ça comme ça, je ne sais pas si ça aurait un charme fou d'aller se promener, parce que vous n'auriez pas cette cheminée, vous n'auriez pas cette verrière, vous n'auriez pas évidemment toutes ces constructions d'abord cette vue à hauteur, car là on est à hauteur, on domine pas, on est à hauteur, on est plus bas que la Sainte-Chapelle, on est plus bas que Notre-Dame. Donc voilà, ça participe à l'état d'esprit. Enfin, pour moi, je suis très sensible à ça. Voilà.
Au point où vous avez, 7 ans après votre départ, François Goffinon, un peu de difficulté encore à concevoir que vous l'avez quitté, ce lieu.
On ne quitte jamais le 36 Quai des Orfèvres. On ne le quitte jamais. Ou bien alors, on a raté quelque chose, on s'est trompé. On n'aurait pas dû venir, hein. C'est tout. Ah oui, quelqu'un qui n'a pas ce sentiment-là, s'est trompé, quoi. Il fallait qu'il rentre, je ne sais pas, dans une autre direction, la gendarmerie, je ne sais pas, la sécurité sociale, quelque chose, je ne sais pas. Mais pas du tout la police judiciaire. Certainement pas la police d'investigation. Évidemment pas. Comme je vous disais tout à l'heure, ici, les murs ont une mémoire. Les lieux ont une mémoire. Et quiconque n'est pas sensible à ça rate quelque chose. Et je ne pense pas que quelqu'un qui n'est pas sensible à ça soit un bon policier.
Je vous fais une confidence en cette fin d'émission. Maintenant qu'on a été même plus haut que ces 148 marches, j'ai presque envie de prendre une photo, comme une photo souvenir, parce que finalement, ça vous sera peut-être pas donné souvent, François Goffinon, de retourner ici, surtout s'il y a ce déménagement.
J'ai vraiment tellement d'amitié autour de moi ici, y compris chez des jeunes policiers qui sont arrivés bien après mon départ, que je suis toujours un peu ému parce que cette famille-là reste une famille. Et encore une fois, ceux qui n'ont pas compris ça, ben, ils doivent être très mal à l'aise, hein, ou pas très efficaces, je pense.
Vous arrivez à trouver le mot de la fin?
Vous me demandez de parler de ce que j'aime. Ah, évidemment, je suis un peu bavard.
Quoi ? N'oubliez pas, demain à la PJ.
Ça recommence ?
Non, non, simple procès verbal.
Une semaine au 36, fin de la première journée. En compagnie des anciens du 36, Michel Malherbe et François Goffineau, de Loïc Garnier et Patrick Bourbotte, de la brigade criminelle. Remerciements à Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur, et à Jean Tullard, François Guérif et Bruno Fulini qui ont accepté de gravir avec nous les 148 marches. Avec des extraits de L'Appât de Bertrand Tavernier, Quai des Orfèvres de Georges Clouzot, Le Pacha de Georges Lautner, 36 Quai des Orfèvres d'Olivier Marchal et Maigret tend un piège de Jean Delannoy. Sur les docks, Yvon Croisier, Alexandre Hérault.
C'était les 148 marches, le premier temps de Une semaine au 36, un documentaire diffusé le 30 mars 2009 sur France Culture. À suivre.